MCI TV vous présente l'émission Face à Face. Dans ce Face à Face avec Yanis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi.
Bonjour mon ami, heureux de te retrouver pour cette nouvelle émission Face à Face et on poursuit avec le témoignage de Carlos. Je ne sais pas si tu as assisté à la première émission, mais je t'encourage à la visionner. Carlos a eu un parcours atypique, particulier, puisqu'il a connu l'homosexualité, la pornographie et ça a été très 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 compliqué et à la fin, il y a quelque chose qui se passe puisqu'il découvre l'amour de Dieu et à partir de là... Tout va changer. Et c'est cette partie qu'on va aborder, un témoignage d'ailleurs que tu retrouves dans ce livre inexplicable, j'allais dire l'inexplicable, inexplicable. Sur Amazon, tu peux le trouver ou envoyer un mail à Carlos. Carlos, moi quand je t'interviewais sur la première émission, je me suis dit, mais premièrement, l'amour de Dieu qui vient à la rencontre du pécheur, que tu étais, que j'étais, que en fait l'Église est constituée de pécheurs sauvés par la grâce, mais j'ai hâte d'entendre aussi comment Dieu t'a délivré, comment Dieu t'a reconstruit, comment tu as pu gérer la tentation, parce qu'il y a tellement de gens qui sont enfermés dans certaines choses, certains cycles qui finalement les amènent à croire que la liberté n'est pas possible. Et pourtant, c'est possible, tu en es la preuve vivante. Alors, après cette rencontre avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie?
Ce qui est important de dire, c'est, si on a entendu la première partie, c'est que je vivais au début par ce que je ressentais. Après, j'ai lutté contre ce que je ressentais. Et à la fin, j'essaye de changer la parole à cause de ce que je ressens. Donc, tout était par rapport aux sensations. Ma vie roulait par les sensations. C'est quand j'ai eu cette rencontre avec Dieu, quand il m'a montré qu'il n'était pas mon Seigneur, c'était moi. Là, j'ai compris qu'il me fallait me soumettre à lui. Mais comment tu te soumets à lui? On dit tout ça, les chrétiens, hein? Je suis soumis à Dieu. Mais où tu te soumets à Dieu vraiment? Dans ta pensée. Quand tu mets ta pensée par-dessus la sienne et tu commences à donner plus de poids à ce qu'il dit, là, d'un coup, il commence à faire des miracles dans ma vie. C'était quoi le premier miracle? Premièrement, comprendre que je ne suis pas ce que je ressens. Je me rappelle très bien, après avoir fait cette prière d'abandon, où je lui dis, tu sais quoi, je mets tout de côté, je vais te suivre. C'est là que, trois jours plus tard, on était en train d'écouter des prêches là où j'habitais. C'était pas des prêches à propos de ma destinée, les finances, ton ministère. C'était des prêches à propos de la personne de Dieu. Je voulais connaître Dieu. C'était pas... Ça faisait 11 ans que j'étais à l'église, mais je ne les connaissais pas vraiment. Donc, je me mets à écouter les prêches. Et dans un moment donné, ce que je vais partager ici, je l'ai dit, c'est mon histoire. Ça n'applique pas à tout le monde, il ne faut pas généraliser, c'est ce que j'ai vécu, et tel que je l'ai vécu, je le raconte. Le fait, c'est que le pasteur en question, c'était un pasteur en espagnol, il parle de l'homosexualité autant qu'un esprit, je n'avais jamais entendu ça. Et de l'autre côté, il parle d'aligner ton corps à ton âme à ton esprit, esprit à Saint-Esprit. C'est deux choses différentes, deux sujets différents. Et à la fin de 7 heures, pendant 7 heures, j'écoutais des messages, j'ai décidé de me coucher, et avant de me coucher, j'ai dit, oh, je vais faire une prière, qu'est-ce que je perds? Et je vais mixer des choses que j'ai entendues dans tous les messages. Et je me rappelle que j'ai dit, de nulle part, j'ai dit, Seigneur, j'aligne mon corps à mon âme à mon esprit à Saint-Esprit, et je chasse dehors cet esprit qui m'a fait mal, qui va vouloir me détruire toute ma vie, je restaure le dessin originel par lequel tu m'as créé, et je prie pour ma femme et mes enfants, au nom de Jésus, Amen. J'ai dit, quoi? D'où elle est sortie cette prière? J'étais pas un homme de prière, j'étais un homme de pornographie. Mais d'un coup, je me trouve en train de faire une prière tellement élaborée. D'un coup, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. Il est comme un switch. Je prends mon téléphone, qui était une bibliothèque de pornographie homosexuelle, et j'ouvre les photos. Et quand je les ouvre, je me rends compte que je ne ressens pas ce que je ressentais toujours. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu as fait dans une seconde ce que je n'étais pas capable de faire pendant 11 ans. Mais tu l'as fait quand c'était le plus important. Là, je ne cherchais plus changer. Je cherchais lui. Et Psaume 37:4, il a dit, prends des listes dans l'éternel et il donnera les désirs de ton cœur. C'était la première fois que je me focalisais à lui et pas à ce que mon cœur désirait. Et là, il l'a fait dans une seconde. Donc, j'ai dit, OK, il y a quelque chose qui s'est passé, Seigneur. Et je me rappelle que j'ai reçu cette pensé comme si Dieu il me disait, maintenant va et raconte à tous ce que j'ai fait pour toi.
Bon, tu vas un peu trop vite.
Ah oui, là je parle trop vite.
Tu dis que tu as fait une prière et tes centres d'intérêt ont été changés.
Oui.
Tu comprends aujourd'hui qu'il y a des gens. Tu as été dans une phase de lutte également hein, pendant 11 ans. Mm-hmm. Et ça ne veut pas dire que tu n'as pas eu de victoire. Tu as eu peut-être des effets yo-yo, victoire, défaite. Donc, tu étais en quête. Et il y a des gens qui nous regardent et qui sont dans des luttes perpétuelles, tu vois. Ils ont envie de s'en sortir. Tu sais, ils combattent un péché qui méprise, qui haïsse. Ils aiment Dieu. Mais il y a comme un lien qui est fort, pornographie, homosexualité ou autre. Toi, tu as expérimenté ton truc, là. C'est fort. Mais peut-être celui qui nous regarde, mais moi, il me faut plus que des mots, quoi.
Ouais.
Il faut une intervention de Dieu. Quand on parle de délivrance, souvent, on a l'image de quelque chose. Tu sais, t'es mort, tu ressuscites.
Oui, mais je vais dire quelque chose de plus fort que ça. C'est que ça fait 10 ans que je partage. Ça fait 10 ans, j'ai rencontré des milliers de personnes et beaucoup de messages qui me demandent de l'aide, des gens exactement dans cette position. C'est une lutte perpétuelle, je ne sais plus quoi faire. Beaucoup parmi eux, ils cherchent une délivrance. Et moi, je me suis rendu compte que oui, je veux qu'une délivrance, mais la délivrance, ce n'est pas la clé. Pourquoi? Parce que même les peuples d'Israël, quand Dieu l'a sorti d'Égypte, il les a délivrés, mais ils n'ont pas changé la façon de penser. Et à cause de ça, ils voulaient retourner en arrière. Donc, si j'aurais vécu juste une délivrance et je ne change pas ma façon de penser, je retourne en arrière. Donc, la clé...
Sans te couper, tu vas donner la clé. Vas-y, donne la clé.
La clé se trouve dans le renouvellement de ta pensée. Quand ta pensée est complètement prise par la compréhension du pardon, de la nouvelle nature, de la vie de l'esprit, tu n'as plus de rapport au passé. Et c'est là qu'on l'ennemi peut attaquer les pensées, les cravings, les désirs passionnels du passé. Toutes ces choses peuvent venir, mais si tu restes ancré dans ce que le Seigneur a fait pour toi, dans ta pensée, l'ennemi fuit, il quitte.
On peut parler de ce verset de Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une question d'identité aussi.
Exactement. Donc j'ai appris à marcher dans l'identité. Et j'ai compris que je ne suis pas ce que je ressens. Je suis ce que lui, il dit que je suis. Moi, je te l'ai dit tantôt, je suis canadien de passeport. Je suis canadien, mais je ne me ressens pas canadien, je me ressens vénézuélien. Est-ce que ça veut dire que parce que je ne me ressens pas, je ne le suis pas? Les documents disent que je suis. La Bible, c'est la même chose. Je suis ce que la Bible dit, pas ce que je ressens. Quand j'ai appris à donner plus de poids à la parole, à son pardon, à son sacrifice, à sa restauration, à la nouvelle créature, là, toutes les sensations qui venaient m'agacer ont commencé à perdre du poids. Et là, je me suis rendu compte que j'étais esclave aux sensations qui ne se tiennent pas devant la parole. C'est là où j'ai trouvé ma liberté.
Tu parles récidive par incrédulité dans ton livre. Tu peux expliquer?
Ok. Je me suis rendu compte de ceci. Une fois que tu arrives à te focaliser, à renouveler ta pensée, et que tu comprends que le problème, c'est pas le péché. Le problème, c'est que tu n'as pas complètement mordu ce que Jésus a fait avec ton passé. Il y a un mot que Jésus utilise quand il parle à Paul. Il dit, je veux qu'il reçoit le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. Acte 26, 18. Il utilise le mot pardon. En grec, ce mot, c'est aphésis. Ça veut dire, pardonnez en vous les saints comme si vous n'avez jamais rien commis. J'ai dit, waouh, Seigneur. Tu es en train de me dire que tu me laisses comme si j'ai jamais rien commis? C'est-à-dire que toutes ces choses que j'ai racontées ici dans l'émission, devant Dieu, ils n'ont jamais existé. Pas parce qu'ils n'ont pas existé, c'est parce qu'il les a pris. Il m'a couvert de sa sainteté, il s'est couvert de mes péchés. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai dit, OK, Dieu, il veut que je me voie moi-même comme il me voit. Il me voit comme si j'ai jamais, comme si j'ai jamais commis ces choses-là. Donc, le plus je me vois dans cet état, le plus quand le péché, il vient frapper la porte, il ne trouve pas par où rentrer. Mais, si tu n'es pas complètement ancré dans cette vérité, tu es dans l'incrédulité, tu doutes de la vérité, tu doutes de son pardon et tu as de très fortes chances de récidive. Mais toute la récidive chez un chrétien indique qu'il n'est pas en train de croire la vérité.
C'est un peu dur ce que tu dis.
Ok.
Je suis obligé de te le dire. Je suis obligé de te le dire. Pourquoi ? Parce que humainement parlant, j'entends et je dis amen à tout ce que tu as dit, mais je me mets également aussi à la place de la personne qui... essaie, tu vois. Et sur le plan humain, on dit que parfois, quand on veut sortir d'une addiction, eh bien, il faut apprendre à gérer les rechutes. Ils disent même que la rechute fait partie justement du cursus chez quelqu'un qui veut sortir d'une addiction. Donc, quand il y a récidive, pas voulu, pas involontaire, mais quand il y a une récidive, quelle est la posture qu'on doit avoir ?
Immédiatement venir au trône de la grâce, avec confiance. Ah, immédiatement.
J'aime ça.
Là, tu dis, Seigneur, regarde, j'ai chuté, qu'est-ce que j'ai fait ? Je viens courant à toi. Tu m'as pardonné, tu m'as effacé mon passé, tu m'as fait de nouveau. Pourquoi j'ai chuté ? Saint-Esprit va te le dire.
Comme mon Pierre fils a été restauré par Jésus.
Voilà, exactement. Et là, Saint-Esprit va te dire, mon fils, tu t'es identifié à ton passé, rappelle-toi que je l'ai effacé. Ah oui, c'est vrai, Seigneur, pardonne-moi. Et tu continues à marcher dans la sainteté.
D'accord. Maintenant, il y a une autre question qui est justement peut-être en amont de la récidive. Comment, toi, après avoir expérimenté justement cette délivrance, tu as pu gérer ce qu'on appelle le craving, les pulsions, les désirs intenses. Tu nous as dit, oui, je m'identifie, j'ai plus de sensations. Ok, mais quel est le conseil que tu peux donner face à la tentation, justement ?
Accepter qu'elle va venir. 1 Pierre 2, 11, il dit, il y a une bataille de désirs charnels, de passions charnelles contre ton âme, mais elles ne sont pas contre ton esprit. Quand tu comprends que dans l'esprit tu es pardonné, dans l'esprit tu es la nouvelle créature, dans l'esprit tu as la semence de Dieu, en Jean 3, 9, c'est-à-dire qu'on a la semence de Dieu dans notre esprit, la nature de Dieu lui-même, tu comprends que la chair ou les désirs charnels, il n'attaque pas l'esprit, il ne peut pas. Il va attaquer ta pensée, ta volonté, tes émotions, tes décisions, mais il ne va pas attaquer qui tu es dans l'esprit. C'est pour ça que quand j'assume que la tentation va venir, mais je ne suis pas étonné parce qu'elle arrive. Je sais qu'elle va arriver, mais je sais que je suis dans l'esprit. Galates 5, 16, il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas ce que les désirs de la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce ne sont pas tes désirs, ce sont des désirs de la chair. Donc je ne les approprie pas. Ce ne sont pas à moi, je ne les accepte pas comme miens. Ils arrivent, mais ils ne sont pas à moi.
Donc être tenté n'est pas synonyme de faiblesse.
Non, pas du tout. Jésus était tenté. Est-ce qu'il était faible ?
Non.
Voilà.
C'est la manière dont il a réagi qui a montré
exactement
sa consécration. Donc quand on est tenté, on prend la parole de Dieu, on prend notre autorité et puis on attend que ça passe.
Mais surtout savoir qui tu es. En Jean 3, 9, ça dit, si vous êtes né de Dieu, vous avez la semence de Dieu et vous ne pouvez pas pécher. Ça ne dit même pas que vous n'avez pas la chance ou que vous ne désirez pas. Ça dit, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas l'opportunité, la manière de pécher. C'est une réalité de l'esprit. L'esprit, né de nouveau, n'a pas la capacité de pécher. Il est un avec Dieu. Donc, si tu t'identifies à l'esprit et le désir de pécher arrive, je sais que ça ne vient pas de moi, je suis la nouvelle nature. Donc, le plus je reste ancré dans ma pensée, qui je suis dans l'esprit, le plus, quand la tentation arrive, elle quitte, parce qu'elle ne trouve pas un récepteur. Mais par contre, si la tentation arrive, et elle me dit, hey, rappelle, regarde cette gars, il se ressemble à quelqu'un qui t'a couché avec.
Ça t'est déjà arrivé, ça ?
Mais oui ! Et quand ça arrive, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, non, je vais lutter parce que je suis chrétien, parce que je dois me tenir. T'as tombé déjà. Parce que tu t'identifies aux sensations. Mais quand, aujourd'hui, si ça pensait...
Considérez-vous comme mort au péché.
Voilà, Romains 6. Si tu te considères mort au péché, Romains 6, 11, tu sais que tu ne dois pas réagir.
Tu n'as pas d'emprise.
Tu ne réagis pas. Donc, aujourd'hui, quand la tentation arrive, j'ai dit, bon, c'est une tentation, elle arrive, mais je n'ai pas rapport à elle. Je suis une nouvelle créature. Mon passé a été effacé.
Tu as plus peur de la tentation ?
Pas du tout. Mais j'ai tenté.
Tu parles de l'auto-pardon.
Oh, très important.
C'est quoi ça, l'auto-pardon ?
C'est... On a plus de facilité à accepter que Dieu nous a pardonné, qu'il nous a couvert, que nos péchés étaient effacés. Mais quand on commet une erreur, on est trop sévère avec nous-mêmes. On commence à se dire, oh, mais pourquoi j'ai fait ça encore ? Oui. Viens au trône de la grâce. Le Seigneur a fait un sacrifice une fois pour toujours. Il t'a déjà pardonné. Viens plutôt restaurer ton âme. Viens restaurer ta compréhension. Mais tu continues à te flageller. Tu es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi pour qu'il vienne t'écraser encore plus loin. Mais si tu dis, Seigneur, si toi tu me pardonnes, qui je suis pour ne pas me pardonner? Si toi, qui pouvais m'envoyer à l'enfer, me présente devant toi, propre en Jésus-Christ, qui je suis pour me condamner encore? Romains 8, 1, ça dit clairement, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. De la même façon que notre bonne action ne pouvait pas nous présenter devant Dieu, notre mauvaise action, une fois on est en Christ, il ne peut pas nous éloigner de Dieu. C'est, on est en Christ, c'est son salut, c'est sa justice, on est juste sur lui.
Donc tu as expérimenté la délivrance, tu as expérimenté aussi la restauration.
Ouais, c'est, si on peut le dire comme ça, moi je voulais toujours passer de l'homosexualité à l'hétérosexualité. Et je pensais que c'était ça ce que je devais faire. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas passé de l'homosexualité à l'hétérosexualité. C'était impossible. Moi, j'ai passé de cette attirance déchaînée pour les hommes à Jésus. Et une fois en Jésus, il m'a amené à la compréhension de la parole, de l'évangile, de qui je suis, de mon identité. Et un an plus tard, il m'a amené à comprendre que je pouvais être avec des femmes et que c'était, que j'étais homme assez.
Plutôt une femme.
Bon, oui. Il m'a amené à la compréhension que je pouvais être avec une femme et que j'allais être assez homme pour être avec une femme. Donc, moi, je me suis tout de suite lancé dans une relation. C'était un désastre. Je ne vais pas parler de ça. Mais des années plus tard, j'ai attendu que ce soit lui qui me parle, qui me dit qui va être cette femme. Et ça s'est passé. C'est arrivé en 2019.
On va voir la photo.
Ouais.
Non, oui.
Voilà. C'était la
chair de ma chair, os de mes os.
La journée de notre mariage.
Et comment se passe ce mariage, cette relation qui commence? Comment tu te positionnes en tant que mari et pour la première fois tu vas vivre avec ton épouse?
La vérité, c'est que je n'ai pas eu un mentor de masculinité.
Un mentor.
Mentor. Un mentor.
Mentor.
Mentor. Ok. Un guide. Je n'ai pas eu un guide de masculinité. Je n'ai pas eu quelqu'un qui me guide dans la masculinité, comment être un homme selon la Bible. Mais à force de connaître Jésus et connaître sa façon de m'aimer, de me traiter, ça m'a enseigné comment aimer une femme. Donc, quand je me suis rendu au mariage, quelque part, ma femme, elle me l'a dit, moi, je reconnais Jésus en toi. Moi, je ne suis pas dans une découverte. Je reconnais Jésus en toi. Donc, j'ai rentré au mariage dans cette position de que j'étais capable d'aimer une femme.
Quel est le regard que ta femme va avoir sur ton passé?
Aucune. Si ma femme serait ici, tu dis, j'ai marié une nouvelle créature, je n'ai pas marié un ex-homosexuel. Lui, oui, c'est son passé, mais Jésus a tout effacé.
D'accord.
Elle est une folle aussi, comme moi, dans la foi. Hein.
Quel est le regard de ton père? Tu nous parlais de ton père sur la première émission. De ta maman, de ta famille, sur ce que tu es aujourd'hui?
Ma mère, elle est déjà partie avec le Seigneur, mais elle était très, très contente d'avoir vu que Dieu était fidèle. Mais c'est après ça qu'elle a eu sa rencontre avec Dieu. C'est après ma rencontre avec lui qu'elle a donné sa
porte.
Vie. Ouais. Et mon père, aujourd'hui, notre relation est excellente. On se partage tout le temps. Il va bien. On abrime une relation, restaurée, que le Seigneur a restauré pour nous.
Aujourd'hui, tu es aussi enseignant?
Oui.
C'est quoi le cœur de tes enseignements? À qui tu t'adresses?
J'enseigne l'Église, surtout, comment adresser les sujets LGBT à l'intérieur de l'Église, parce que ça a été très mal géré. Je les enseigne comment rejoindre la communauté LGBT avec un message de réconciliation, sans cacher la vérité, mais avec un message de réconciliation, avec l'amour de Dieu.
Comment communiquer, tu veux dire?
Comment communiquer, exactement. Deuxième moment, je les enseigne comment aider à ceux qui luttent à l'intérieur de l'Église. Parce que depuis que j'ai commencé à partager, au moins 15 000 personnes m'ont écrit pour me demander de l'aide.
Donc, 15 000 personnes, ouais, 15 000 sujets tabous.
Chrétiens, 15 000 chrétiens.
Des sujets tabous,
ouais, qui,
à l'Église.
Qui ont des luttes très intenses avec la sexualité, et surtout l'homosexualité, et ils ne savent pas quoi faire.
Ou la pornographie.
Oui, exactement. Donc je les enseigne comment vraiment les aider à travers la compréhension de l'identité. Pas à force de lutter, de se retenir, de mettre des barrières, non, l'identité. Il y a la liberté dans l'identité. Et aussi, je donne des tips sur comment protéger l'Église des hérésies qui essayent de tordre la parole, comment parler du sujet ouvertement sans offenser personne de façon innécessaire. C'est jamais la lumière sur ce sujet, parce que je sais qu'il y en a besoin. Parce qu'il était là-bas, et aujourd'hui je suis ici, je comprends. Qu'est-ce que les deux groupes n'arrivent pas à rejoindre. Donc c'est mon but d'aider l'Église dans ce sujet.
Et si en quelques minutes, là, tu pouvais t'adresser au Carlos que tu étais hier, qui peut-être est en train de nous regarder et se poser certaines questions, il fait face à certaines luttes, certains combats, et puis tu le croises, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je vais parler au Carlos du milieu, celui qui était à l'Église et qui luttait avec son péché. Que tu saches que ton péché n'est pas ton problème. Ton problème, c'est que tu ne comprends pas qu'est-ce que Jésus a fait avec ton péché. tu luttes pour changer et le Seigneur ne veut pas que tu changes. Le Seigneur veut ton cœur. Le Seigneur veut pas que tu t'efforces à défaire quelque chose qui c'est impossible pour toi. Tu n'as pas choisi de sentir ça. Tu n'as pas choisi d'avoir l'attirance envers les hommes. C'est pas quelque chose que tu as choisi. Mais tu as choisi mettre toute ton identité dans cette sensation. Le Seigneur, il veut que tu mettes toute ton identité dans ce que lui, il dit. Et là, tu vas trouver une transformation, pas dans tes forces, mais dans la force de Dieu en toi. Tu vas lui laisser être Dieu dans ta vie. Ne cherche plus à changer. Le désir de changer, c'est un idole. Mets ça de côté. Focalise-toi à connaître et à comprendre ce qu'il a fait pour toi. Et ta vie se trouve cachée dans sa vérité.
Merci. Tu as des enfants aujourd'hui?
Oui. Le Seigneur nous a bénis en promotion, 2 par 1. Il y a 9 mois, on a eu des jumeaux.
Waouh.
Ouais. Voilà la photo. Ouais. Garçon et fille en plus. Ouais.
Tu les embrasseras.
Merci.
Tu parles dans ton livre d'un sujet qui est très parlant pour les parents. Parents d'un enfant qui se déclare homosexuel.
Ouais.
Il y a peut-être des parents qui nous regardent. C'est quoi ton message?
Je travaille surtout avec les parents chrétiens. Parce que pour celui qui n'est pas chrétien, c'est pas un problème. Hein. Mais pour ceux qui sont à l'église, comprends. Si ton enfant a grandi à l'église et que tu l'amenais tout le temps à toutes les activités et que d'un coup, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, il te révèle, il te dit, maman, papa, je vais vous dire que je suis homosexuel, que tu saches que la mauvaise nouvelle, ce n'est pas qu'il t'annonce qu'il est LGBT. La mauvaise nouvelle, c'est qu'après tant d'années dans l'église, il n'a pas compris qu'est-ce que le Seigneur a fait pour lui. Il n'a pas compris que l'identité ne se trouve pas dans les sensations, mais dans la parole. Il n'a pas compris le pardon des péchés, il n'a pas compris la nouvelle nature, il n'a pas compris la vie de l'esprit. C'est ça, la mauvaise nouvelle. Donc, ta prière, ça, c'est pas qu'il quitte cet endroit, ou qu'il quitte le péché. Ta prière, c'est qu'il ait une révélation profonde de l'évangile dans sa vie. Et c'est ça qui va l'amener de retour au Père.
Est-ce que tu peux prier, il nous reste quelques minutes, pour toutes ces personnes justement qui font face à l'homosexualité, qui font face à la débauche sexuelle, qui font face à la pornographie, qui sont addicts. Est-ce que tu peux prier pour eux?
Ouais.
Et pour les parents aussi.
Si tu es dans une débauche sexuelle, mais que tu ne connais pas Dieu, je prie que l'amour de Dieu te soit révélé maintenant. Que Dieu trouve la façon de se rendre à ton cœur et te montrer que ce vide que tu as à l'intérieur de toi, seulement lui peut le remplir. Je ne te demande pas de changer, je ne te demande pas d'abandonner, je te demande de t'ouvrir à cet amour qui comble le cœur humain. Seigneur, mais aussi il y a des gens qui sont déjà dans l'Église, qui ont entendu de toi, qui ont eu une rencontre, mais qui ne savent pas comment faire. Pour laisser leurs anciennes habitudes. Seigneur, montre à eux que ce n'est pas de ne pas sentir ou sentir, c'est plutôt de s'accrocher à ta parole, de donner plus du poids à ce que tu dis, à ce que tu as accompli, et de vivre selon ce que tu dis, Seigneur. Je prie que chacun de eux, maintenant, puisse comprendre qu'à la croix, tu les as lavés, tu les as pardonnés, tu les as sanctifié, tu les as justifié, qu'il doit arrêter de regarder leurs péchés et qu'il doit regarder qu'est-ce que tu as fait avec leurs péchés. Tu l'as effacé. Et tu les as aussi fait à nouveau. Et cette fois-ci avec une nouvelle nature qui n'a pas rapport avec l'ancien. Qu'il doit s'accrocher à qui ils sont en toi. Que où on vit par ce qu'on ressent, où on vit par ce que tu dis. Dans ce qu'on ressent, on a goûté la misère. Dans ce que tu dis, on trouve la vie, on trouve la liberté. Seigneur, je demande maintenant pour ces parents qui jour et nuit pleurent pour leurs enfants. Aide-les maintenant à amener l'idole des enfants, les mettre devant toi. Et aussi à se focaliser, à te connaître, à avoir une meilleure relation avec toi, à s'approprier de ta parole, à s'approprier de tes vérités, à vivre, Seigneur, d'une façon qu'ils vont refléter ta lumière dans leur foyer. Et leurs enfants vont vouloir connaître leur Dieu de la même façon qu'ils les connaissent. Que leurs enfants voient ta personne tellement évidente à travers eux qu'ils aillent le désir de te connaître. Que ce ne soit pas juste des chicanes et des discussions. Que ce soit le reflet de ta personne, de ton amour qui les amène envers toi. Seigneur, et qu'ils prient avec autorité que cette révélation de ton amour, de ta personne, de ta vérité soit dans les cœurs de leurs enfants, parce que c'est la seule lumière qui chasse les ténèbres. Il ne faut pas se focaliser aux ténèbres. Focalise-toi à la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Seigneur, merci. Merci d'aider chaque personne ici dans cette rencontre, dans cette profondeur avec toi. Au nom de Jésus, amen.
Amen. Pendant que Carlos était en train de prier, j'avais cette image de ce brigand à la croix. En fait, on l'a cloué parce que la croix était réservée aux pires des criminels. Et on l'a cloué parce que on voulait plus le voir, on voulait plus entendre parler de lui. On l'a cloué à la croix parce que il n'avait aucune valeur pour la société. Alors on l'a cloué, on l'a crucifié pour mettre un terme, une fin à sa vie. Et au-delà de cette atrocité, il y a quelque chose qui va se passer parce que cet homme, il est à côté de Jésus. Et là, on voit toute la dimension de l'amour de Dieu. Cet homme qui n'a jamais mis les pieds dans une synagogue, qui n'a jamais ouvert les Écritures, se tourne vers Jésus. Cet homme qui n'a jamais parlé à Dieu, qui n'a jamais obéi à Dieu, qui n'a jamais servi Dieu. Cet homme qui a une vie qui va à l'opposé de tout ce que Dieu souhaite et veut. Il se tourne vers Jésus. Et il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le royaume de ton Père. Jésus ne va pas le juger, Jésus ne va pas le condamner, Jésus ne va pas l'accuser, mais il va le sauver ce soir même. Pas demain, pas l'année prochaine, pas si tu fais ci ou cela. Jésus lui dit, ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Ce que je suis en train de te dire, c'est que peut-être on t'a crucifié, peut-être que on t'a mis sur une croix psychologique. M'en parlant, on t'a laissé croire que tu ne valais rien, que tu n'étais rien. On t'a écarté de la société. Peut-être que c'est toi-même, comme le disait Carlos, qui te punis. Tu t'auto-flagelles, tu te condamnes et tu te dis, je ne mérite pas que Dieu m'aime. Je ne mérite pas que Dieu s'intéresse à moi. Je ne mérite pas que Jésus me sauve. Je n'ai aucune valeur. Peut-être que ton péché, tes fautes sont sous tes yeux constamment et le diable est là pour te les rappeler encore et encore, histoire de t'accuser, histoire de te juger, histoire de te condamner. Il te met symboliquement sur une croix et il te crucifie alors que tu es encore vivant. Entends le message de Jésus. Jésus ne vient pas te juger, Jésus ne vient pas te condamner, mais il vient vers toi maintenant pour te sauver. L'amour de Dieu est plus grand que la noirceur de ton péché. Et il y a une vérité que tu dois garder dans ton cœur. C'est celle-ci. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. L'Église est constituée de pécheurs qui sont sauvés par la grâce. Alors merci Seigneur pour ton enfant. Merci parce que au travers de cette émission, tu lui as révélé ton amour. Au travers de cette émission, Seigneur, tu lui as tendu les bras. Et alors qu'il décide de s'approcher de toi, alors qu'il décide de s'en remettre à toi, de te confier sa vie, tu la prends, Seigneur, et tu le propulses, Seigneur, vers une nouvelle vie. Une vie où il va expérimenter la puissance de ta parole, la délivrance, la guérison, la restauration totale et complète dans le nom de Jésus. Amen. Merci Carlos.
Merci.
Le livre c'était pour l'émission mais je vais le garder. Ça ne te dérange pas.
C'est un cadeau.
Et je vous encourage vraiment direction Amazon ou envoyez un message à Carlos. Si vous n'avez pas d'accès à Amazon, il se fera un plaisir de vous offrir ce livre. Ouais. C'est une mine d'or pour vous. Vous pouvez le lire. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine émission Face à Face.
Un plaisir.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Face à Face sur emcitv.com.